je la refais, on triche. Comme tu le sais, André, le triptyque de Nipédu, c'est école, éducation et
numérique.
Il est trop fort.
Réalisé sans montage.
Sans trucage.
Sans trucage.
Nipédu. Nipédu. Le podcast.
Le podcast.
École,
éducation,
numérique. Nipédu.
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 Bienvenue dans Nipédu. Nipédu, épisode 88. Aujourd'hui, j'ai entendu moi-même mon accent dans 88, pardon. je vais reprendre.
Tu peux dire 8 ans.
Mais ne t'excuse pas pour ton accent.
Allez, je reprends même pas, vous avez raison, c'est comme ça, j'assume. Donc, Nipédu 88. Aujourd'hui, on lui a fait un milliard de fois, j'imagine, mais on va détricoter l'innovation pédagogique avec qui vous savez sans doute déjà. Mais en tout cas, on anime cette émission aujourd'hui avec Fabien Aubard. Salut Fabien.
Salut Régis, salut Jean-Philippe et salut à notre invité. Je suis très très heureux de vous retrouver pour cet opus 88, hein, c'est ça que tu as dit Régis, de Nipédu, qui clôt une trilogie livresque, j'ai envie de dire, mais tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure Régis, je crois. Salut Jean-Philippe.
Salut les gars, salut Régis, salut Fabien.
Bonsoir André, je ne peux pas le dire, il n'est pas encore présenté. J'espère que vous allez bien les gars, depuis la dernière.
Bah écoute, ouais, super, super. La dernière, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ouais, très bien. Donc, on le disait, Fabien, on disait quelques mots. Oui, on clôt une belle trilogie, Nipédu 86, 87 et donc la 88 autour de trois ouvrages. Et aujourd'hui, on reçoit André Tricot. Bonsoir, André.
Bonsoir, tous les trois.
Ravi de te recevoir pour ton ouvrage qu'on va décortiquer dans cette émission, Mythes et réalités autour de l'innovation pédagogique. Il y a des choses à dire. Ouais, Fabien, il le montre, il est plein de post-it aussi. on l'a vraiment détricoté en long et en large. Je vous propose vraiment pour le coup qu'on se lance tout de suite dans la première partie de l'émission, les garçons.
Allez. On te suit, Régis.
Allez, c'est parti pour la première partie de l'émission.
Le dossier de Nipédu.
Le dossier.
Première partie de l'émission. André Tricot, entre mythe et réalité. Fabien, je te laisse commencer les choses.
Bah ouais, c'est habituellement, on a une question qui est rituelle, que nos auditeurs connaissent bien, c'est on demande à notre invité de se présenter en lui demandant qui il est. Mais là, j'ai envie de tourner la question autrement. Alors, André Tricot, mythe et réalité. À toi, André.
Non, mais j'essaye de... En fait, je ne sais pas si vous connaissez le syndrome de l'imposteur. Vous savez ce que c'est, c'est...
Bon, mais tu peux l'expliquer pour nos
auditeurs.
C'est des gens qui passent toute leur vie à croire qu'un jour, les autres vont enfin découvrir à quel point ils sont incompétents et à quel point ils n'ont pas le droit de parler de ce qu'ils prétendent pouvoir parler ou ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils prétendent faire. Et je pense qu'il y a toujours eu en moi très, très profondément le syndrome de l'imposteur. Donc, je ne sais pas trop qui je suis et j'ai très peur qu'au cours de cette émission, vous découvriez à quel point je suis inintéressant.
Ah, c'est bon, ça.
Il semble qu'il n'y a pas de risque derrière ça, mais en tout cas, je pense que tu as tellement de casquettes que c'est ça aussi qui crée cette confusion, non, André? Alors, qui tu es? Est-ce que tu peux nous en dire plus, toi, sur ce que tu fais aujourd'hui, ces multiples facettes qu'on croit que tu peux avoir, d'où tu viens? On veut en savoir plus.
Non, en fait, très, très simplement, et je pense que ça explique le livre et puis notre rencontre ce soir. Moi, je suis au départ quelqu'un qui a un double cursus en psychologie et en nouvelles techno. Et puis, comme vraiment par hasard, j'ai trouvé un poste d'enseignant-chercheur dans un IUFM il y a 20 ans, alors que j'avais jamais été enseignant, je connaissais absolument pas ce métier ni ce contexte, mais voilà, des gens bizarres ont eu l'idée de me recruter. Et puis voilà, ça fait 20 ans que je m'occupe de former des enseignants. Et puis petit à petit, j'ai découvert ce métier, ce milieu, tout ça. Puis je me régale. Et donc voilà, même si, encore une fois, c'est l'imposteur, même si je n'ai jamais été enseignant, ça fait 20 ans que je consacre ma vie à essayer de former ces personnes. Et par ailleurs, je suis chercheur dans le domaine de l'ergonomie et des apprentissages, qui sont des domaines de recherche finalement très proches des questions qui se posent en formation des enseignants. Donc j'essaye de joindre mon activité de recherche et mon activité de formateur au service des enseignants, tout bêtement.
Mais alors c'est un univers que tu ne connaissais pas et qu'aujourd'hui tu accompagnes ces enseignants, mais du coup tu es toi-même enseignant depuis ces 20 années que tu as passé à l'UFM et maintenant à l'ESP.
Mais je suis enseignant à un niveau universitaire. Je veux dire, je n'ai jamais enseigné dans le premier degré ou dans le second degré. Je pense que j'en aurais été incapable. En tout cas, je suis persuadé que j'en aurais été incapable. Mais c'est dans le sens où l'enseignement à l'université, en particulier à l'UFM, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a des étudiants qui sont plus âgés et surtout qui sont là parce qu'ils en ont fait le choix, parce que souvent ils ont une passion en plus qui soutient ce choix. Et donc c'est un métier enseignant au niveau où j'enseigne qui est extrêmement facile et des relations qui sont avec mes étudiants qui sont extraordinairement paisible et aisé. Voilà. C'est pour ça que je pense que je ne suis pas un vrai enseignant.
La réflexion qui me vient en t'entendant, c'est du coup tu dis je suis pas un vrai enseignant, ou en tout cas en étant enseignant dans le supérieur je suis pas confronté aux mêmes problématiques que les enseignants dans le primaire ou dans le secondaire. Et ce livre pour lequel on a la chance de te recevoir ce soir, André, il parle surtout de ces stratégies d'intervention dans le primaire et dans le secondaire. Toi tu n'y vois pas de, il y a pas de passerelle, c'est-à-dire que l'enseignant du supérieur aujourd'hui il n'a pas besoin d'avoir recours à ces stratégies d'intervention, il a à faire appel à cette pédagogie là.
Si, tout à fait. Hein. D'ailleurs, j'ai créé il y a 3 ans un master en pédagogie universitaire. Ce master est à l'ESP de Toulouse. Depuis 3 ans, c'est là-dessus que je mets toute mon énergie à la formation des enseignants et des conseillers pédagogiques pour l'enseignement supérieur. Donc, je fais complètement le lien. Moi, je parlais plus de mon arrivée à l'UFM il y a 20 ans quand je suis arrivé formateur à l'UFM, je n'avais pas été enseignant auparavant. Et par ailleurs, c'est un métier où on ne rencontre pas certaines difficultés d'enseignant dans le premier degré, dans le second degré, mais le lien, je le fais totalement. Et effectivement, je pense qu'on est, d'ailleurs, on doit être un des premiers, si ce n'est le premier master en pédagogie universitaire en France. C'est dire à quel point j'y crois à ce lien-là.
Moi, je vais quand même dire un mot sur le livre, parce qu'on parle du livre, mais je ne sais même pas si on a tout dit. Donc, ce livre, c'est « Mythes et réalités, l'innovation pédagogique », donc de chez Retz. Et ce qui nous a séduit aussi, c'est la contrainte formelle du bouquin. Donc, pour donner une idée aux auditeurs et leur donner envie de se plonger dedans. Donc, pour chaque... tu abordes une dizaine, je ne dis pas de bêtises, il y en a 10,
oui,
je crois.
Hein. 9.
9,
ouais. 9, pardon. 9 questions, comme par exemple, faut-il inverser la classe, le numérique permet d'innover en pédagogie, les élèves apprennent mieux en groupe, etc. Et donc, tu recontextualises historiquement, et ça, c'est déjà super intéressant, parce que moi, je ne m'étais jamais intéressé de très près aux aspects historiques de certaines choses, là, qui remontent très loin, beaucoup plus loin qu'on pense, en tout cas. Tu fais un état de l'art, après un bilan des travaux scientifiques sur chacune des questions, des exemples très concrets, et là, pour le coup, qui vont de l'élémentaire au collège, au secondaire, à l'universitaire. Et pour finir, et c'est ça qui est vraiment intéressant pour le prof que je suis, des conclusions et des pistes pour l'action, du concret pour la classe. Donc ça, c'est pour l'aspect formel du livre. Est-ce que ces contraintes formelles, elles ont été, du côté de l'auteur, là on s'adresse du coup à l'auteur, difficiles à aborder, ou ça a paru naturel pour le chercheur que tu es de se fondre là-dedans, dans ce cadre-là?
Donc, en fait, ça, c'est des contraintes qu'on avait créées pour un bouquin qui a été publié il y a 3 ans, qui s'appelait « Apprendre avec le numérique, mythes et réalités ». Et donc, c'était le premier ouvrage qu'on écrivait chez Retz avec cette approche mythes et réalités. Et c'est à cette époque-là qu'on s'est dit « chaque mythe lié au numérique, on va l'aborder avec ce cadre, contexte historique, d'où vient l'idée ?» État de la question, quelques exemples, puis conclusion et pistes pour l'action. Et en fait, le bouquin sur le numérique nous a bien plu, cette approche nous a convenu. Retz trouvait que le bouquin fonctionnait bien. À partir de là, ils m'ont proposé de créer une collection qui mythes et réalités en éducation. Donc il y a un premier bouquin qui est sorti sur l'apprentissage des langues, il y a celui-là sur l'innovation pédagogique, il va y en avoir un sur l'apport des neurosciences à l'éducation, il va y en avoir un sur la formation des enseignants, il va y en avoir un sur l'intelligence de l'enfant, etc. Et chaque fois avec la même approche, en fait, cette approche, cette contrainte formelle, on a mis longtemps à l'élaborer, mais aujourd'hui, moi, j'en suis assez satisfait. C'est une façon, comment dire, de faire de la diffusion scientifique qui, moi, me semble satisfaisante dans le sens où on s'adresse à des lecteurs, on va dire professionnels, c'est-à-dire à des lecteurs qui doivent pouvoir utiliser le bouquin pour en faire quelque chose dans leur métier et pas uniquement de la diffusion scientifique au sens d'un que sais-je, par exemple, hein, qui aurait une approche plus encyclopédique, on fait le point sur la question. Donc nous, on voulait vraiment faire un truc qui soit problématisé par des problèmes d'action, des problèmes professionnels.
Ouais, donc en fait, je rebondis parce que tu as répondu à une question avant même qu'on te la pose, et je l'avais en tête là qui venait. Donc clairement, tu destines ce livre, vous l'écrivez, enfin tu l'écris à destination des enseignants avant la communauté de chercheurs, en fait, très clairement.
Ah, complètement, oui. C'est de la diffusion scientifique. Après, à notre grande surprise, dès le premier bouquin sur « Apprendre avec le numérique », on s'est rendu compte que beaucoup de collègues chercheurs l'avaient acheté et l'avaient lu. On s'est rendu compte que beaucoup de cadres d'éducation nationale l'avaient acheté et l'avaient lu. Et donc, c'est comme toujours, hein, on conçoit un projet en direction d'un public et puis il y a des publics qui s'intéressent alors qu'on était c'était pas à eux qu'on pensait et c'est vrai que c'est toujours la même histoire, mais c'est quand même super marrant, tu vois, quand tu croises un collègue qui dit « Ah, j'ai lu le bouquin
!» Alors, du point de vue des chercheurs, je vois bien pourquoi c'est pas un livre qui leur a été prioritairement destiné. Par contre, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Pourquoi ça a été une surprise que les cadres de l'institution s'en saisissent? Parce que pour le coup, ils sont peut-être aussi, tu vois, ils ont peut-être eux aussi besoin de médiatisation.
Ouais, tout à fait. Mais je me disais, c'est quand même des bouquins qui ronchonnent un peu, qui essayent d'aller un peu contre l'air du temps, qui essayent de ronchonner. Donc je me disais, bon, les cadres de l'éducation nationale, ça peut les embêter qu'on ronchonne à ce point, qu'on essaie d'être un peu contre l'air du temps, mais pas du tout. Et vraiment, on a eu des retours qui étaient, enfin, pour l'instant, je touche du bois, hein, mais on a eu des retours qui étaient systématiquement bienveillants, chaleureux. Donc tout va bien pour l'instant.
C'est le on qui inclut Franck Amadieu, je pense.
Franck Amadieu.
Qui est le co-auteur des mythes et réalités du numérique dont on parlait tout à l'heure. Le côté ça frotte et ça pique, je te voyais, Régis, là, rigoler dans ta moustache, parce qu'on a beaucoup échangé autour de ton bouquin, comme tu peux imaginer, André, sur le côté les cadres qui pourraient le voir un peu, pas d'un mauvais œil, mais moi je trouve que. Ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est justement cette distance critique que tu apportes. Alors, pour le numérique, c'était moins flagrant parce que aujourd'hui, le numérique fait de toute façon pas l'unanimité et que quelque part, ça pouvait être un peu arrangeant que Franck Amadieu et toi, vous veniez un peu remettre tout ce qui était présenté peut-être parfois comme des injonctions de mise en œuvre avec une certaine mise en garde. Mais là, quand même, bon, tu t'attaques à des modes d'action pédagogique qui, enfin, moi, ça fait 20 ans, alors tu vois, quand tu as dû commencer à l'UFM, j'aurais pu être dans ta classe et où on nous a dit, bon, bah voilà, la pédagogie de projet, on ne se pose pas la question, c'est le truc qui marche. Et tu le dis toi-même, hein. Bon, après, il y a une distance critique, il y a aussi ce que tu apportes à partir des éclairages de la science et la réalité de ce qu'un praticien peut faire de tout ça, mais n'empêche, waouh, ça, je trouve que ça gratte. Vous êtes allé vraiment très loin.
Ouais, c'est après le ce que je sais pas si ça se voit dans le livre, mais dans celui sur le numérique et celui-là sur l'innovation pédagogique, nous avec Franck d'abord et puis ensuite moi tout seul, je je pars de l'idée que je ne m'attaque que à ce qui me tient vraiment à cœur. Je m'attaque qu'à ce que j'aime. C'est vraiment important. C'est-à-dire que c'est la distance critique, c'est toujours une distance critique vis-à-vis de choses que j'aime profondément, que je respecte profondément. Je pense que c'est aussi un aspect important de la démarche. Et c'était déjà le cas pour le numérique, et j'allais dire c'est encore plus le cas pour l'innovation pédagogique. Et le point de vue est super simple. C'est s'il existe des travaux de chercheurs, ils sont là pour nous aider à prendre cette distance. Ils sont là pour nous aider à critiquer et à remettre en cause ce qu'on fait. Et en aucun cas, ce serait une attaque ou une remise en cause contre quelque chose que je voudrais détruire ou amoindrir. C'est tout le contraire. Je crois qu'il n'y a que les gens qu'on n'aime pas, ils ne méritent pas d'être critiqués.
Non, et ça sent, tu demandes si ça sent dans le livre, ça sent clairement, parce qu'il ne s'agit en aucun cas pour aucun des thèmes abordés, on va dire, de le casser, parce qu'il y a justement toujours des pistes et toujours les choses à prendre là-dedans, les éléments desquels se méfier et s'écarter un peu, et quoi faire justement pour se servir de ces thèmes, parce que ce qu'il y a aussi d'intéressant, je fais un pas de côté. Tu dis innovation pédagogique, et comme Fabien disait, moi je suis allé à l'époque, ça s'appelait l'UFM, on nous parlait de pédagogie de projet, on nous présentait justement pas ça comme une innovation, on nous disait c'est ça qui fonctionne quoi. Donc on se posait même pas la question, moi je sais que je suis arrivé dans l'enseignement, il fallait faire de la pédagogie par projet, il s'agissait pas d'être une innovation ou quoi que ce soit, c'est ça, c'est la panacée et ça marche et il faut faire comme ça. Et on va dire que pendant les 10 premières années, tu fonctionnes par projet parce que ça a l'air d'être une évidence. Et là, ce qu'il y a de... Et tu le dis d'ailleurs toi-même dès l'intro, je crois, hein, que c'était un vrai deuil de se dire que la pédagogie par projet, ben, il n'y a quasiment aucune trace qui montre que ça fonctionne en soi, hein, comme tel.
Ouais, c'était pour moi personnellement, c'est vrai que c'était super intéressant de voir que quelque chose qui en fait est là, pour le coup, au niveau où j'enseigne, au niveau M1, M2, c'est mon outil quotidien, la pédagogie par projet. Et puis là, je dis, ah ben mince, il n'y a rien. Aucun étayage théorique, il y a très peu d'études empiriques. Et puis voilà. Puis Après, je pense que c'est vachement important, en tout cas pour moi, de dire, ça, j'assume que je le fais par conviction. Ça, je l'assume que je fais parce que j'ai envie de le faire. Et puis ça, je le fais parce que il y a en l'état actuel des connaissances de bonnes raisons de faire plutôt A que B.
D'ailleurs, tu cites Kilpatrick qui dit « La pédagogie par projet n'est pas une méthode, mais une philosophie personnelle de l'enseignement. » Ça, c'est fou de le voir comme ça, quoi, du coup.
Ouais, ouais. C'est le type qui est reconnu partout comme étant l'inventeur de la pédagogie par projet et qui dit « Ouf, c'est mon système de croyance personnelle à moi. »
Incroyable.
Ne vous en faites pas plus. Ouais.
Ouais, et puis, c'est quelque chose que tu rappelles dans le bouquin aussi. Régis l'avait mis. Hein, tu dis que l'enthousiasme de l'enseignant est la variable dont l'effet direct sur la motivation des élèves est la plus forte. Du coup, quand tu dis, toi, dans ce préambule de ce mythe autour de la pédagogie de projet, je suis le premier déçu parce que moi, je fonctionne en pédagogie de projet avec mes étudiants, mais c'est pas grave, je continue à le faire. Il y a aussi l'enthousiasme que le praticien, il peut mettre dans la façon dont il se saisit de ces modèles d'action pédagogique. Et du coup, là, on a une variable qui vient ajouter un effet qui était pas forcément, qui est pas forcément directement corrélé au mode d'action pédagogique, du coup.
Donc, ouais. Pardon de t'interrompre, mais ça correspond tout à fait pour moi à un débat actuel qu'il y a dans la recherche en éducation et qui est super important, qui est le débat autour de evidence-based, de dire est-ce que, est-ce qu'on doit fonder les pratiques pédagogiques sur des preuves scientifiques. Et donc, je participe à ce débat actuellement, qui est un débat vraiment, vraiment passionnant. Et en gros, mon idée, c'est que les connaissances scientifiques, elles sont au service des professionnels, et c'est aux professionnels de décider comment ils utilisent ces connaissances scientifiques. C'est-à-dire que pour moi, c'est clair que la connaissance scientifique, ça n'est jamais la solution. La connaissance scientifique, c'est un outil dans ma boîte à outils, et c'est à moi de décider à quel moment je vais utiliser cette connaissance parce que je suis en train de construire une progression dans laquelle mes étudiants ils vont réaliser telle tâche à tel moment, dans telles conditions, etc. Et je crois que c'est, pour moi, ça a été super important de mettre ça au clair dans ma tête, de dire, en gros, c'est pas les mathématiciens qui font les ponts au-dessus de la Seine. C'est pas les biologistes qui soignent les patients dans le cabinet médical du médecin de campagne. C'est l'ingénieur qui conçoit un pont. Et pour ça, il utilise des connaissances mathématiques et des connaissances en sciences physiques. C'est le médecin qui est auprès de son patient. Et pour ça, il peut utiliser des connaissances qui viennent de la biologie. Et vraiment, c'est pour moi hyper important d'être clair là-dessus. C'est les connaissances scientifiques sont ultra importantes à partir du moment où on ne les considère pas comme des solutions, mais comme des moyens qui sont au service des professionnels.
Alors, excuse-moi Fabien, je t'ai coupé la chic.
Vas-y.
Écoute, moi c'est peut-être le petit bémol que j'ai trouvé à la lecture du livre, c'est que ce que tu viens de dire, moi je ne l'ai pas assez senti. J'ai eu l'impression parfois, justement au contraire, et du coup je suis d'autant plus attentif à ce que tu es en train de dire, qu'il y a des moments où je trouvais que, tu vois, quand tu présentais une expérience, en plus bon, il y en a certaines que tu, enfin tu vois, tu détailles un peu quoi, tu donnes un peu, sans rentrer trop dans le détail, mais tu dis voilà, je pense notamment à la fameuse Huguet et Monteil avec le dessin dont on doit se rappeler, soit en contexte d'art plastique, soit en contexte de mathématiques, donc qui font partie des grands classiques en sciences de l'éduc.
Alors Jean-Phil, rappelle-le peut-être pour l'auditeur. Moi, j'ai aussi adoré ça et je ne connaissais pas.
Deux mots, hein, c'est en ouais. gros, si vraiment je suis désolé pour Huguet et Monteil, mais en gros, on montre un dessin à des élèves. Ils ont un certain temps, je ne sais plus exactement, où ils doivent essayer de s'en rappeler. C'est un dessin compliqué avec plein de figures géométriques qui s'entremêlent, etc. Et dans une condition, on leur montre ce dessin en cours d'art plastique. Et dans une autre condition, on leur montre ce dessin en cours de mathématiques. Et après, on enlève le dessin et ils doivent le reproduire. En s'aidant de leur mémoire. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que lorsqu'on fait ça en conditions mathématiques, les élèves ont des moins bons résultats que dans les conditions art plastique, l'interprétation étant que quand je me sens mauvais en mathématiques, bah, je suis effectivement plus mauvais en mathématiques, et lorsque j'ai pas cet effet-là en art plastique, bah, je suis plus performant. Dans le chapitre où tu parles de cette expérience, puis dans d'autres chapitres où tu parles d'autres, parfois ça donne vraiment l'impression, enfin en lisant, moi j'ai eu l'impression de dire ok, donc ça en plus, bon voilà, c'est des expériences canoniques qui ont été répliquées plein de fois, donc du coup on a un peu l'impression que ça devient presque des vérités, de dire bon bah voilà, ça c'est comme ça, et il faut un peu s'en inspirer dans sa pratique. Or, il y aurait plein de raisons, et je ne sais pas si j'ai forcément envie de rentrer dans les détails, mais il y aurait plein de raisons que je retrouve dans ce que tu as dit juste avant, de dire, en fait, cette connaissance, elle peut être utile à un individu lambda à un moment T, dans une situation θ, qui fait que, je vais m'en inspirer, peut-être dans le sens de, c'est-à-dire dans le sens de ce que prouve, entre guillemets, de ce que donne comme information cette expérience, mais aussi, pourquoi pas, dans le sens inverse. Et du coup, je ne sais pas, des fois dans le livre, j'avais cette impression qu'il y avait une espèce de valeur de vérité un peu trop forte qui était donnée parce qu'on est quand même en sciences humaines et sociales, quoi. Voilà.
Je pense que merci pour ta remarque, mais effectivement c'est important, pour moi c'est hyper important d'un côté de dire cette connaissance a été obtenue dans des conditions rigoureuses, l'expérience a été répliquée et ce résultat il est vraiment stable ou il ne l'est pas. Et en même temps de dire, mais attention, ça n'est qu'un résultat, ça n'est pas une solution. Attention, ça n'est qu'une connaissance, ça n'est pas la solution. Et si tu veux, le truc qui est délicat, me semble-t-il, c'est à la fois de dire, les connaissances ne sont que des connaissances, elles sont au service de la solution, et c'est bien les professionnels qui doivent concevoir des solutions. Les connaissances, elles sont juste là pour les aider, ça, vraiment de ne pas confondre les deux. Et en même temps, ce que je voulais, c'était lutter contre des attitudes anti-scientifiques. qui dirait la vérité, elle n'est que sur le terrain, il n'y a que l'expérience qui compte, on ne peut pas produire de connaissances parce que chaque réalité est singulière. Et c'est pour ça que je prends l'exemple du métier d'ingénieur, du métier de médecin, on pourrait en prendre plein, et qui est de dire, c'est hyper important de ne pas confondre une personne qui exerce un métier et qui conçoit des solutions, qui trouve des solutions et la connaissance scientifique qui est à sa disposition, qui ne peut jamais lui fournir des solutions, mais juste des outils pour qu'il construise ses solutions. Et en même temps, la connaissance, elle est extrêmement utile. Elle est extrêmement utile. Et on ne peut pas construire notre compétence dans des métiers aussi complexes uniquement à partir de notre expérience. Voilà, je voulais tenir les deux.
Ouais, mais je trouve, moi, vraiment, je trouve que c'est une position médiane qui me paraît extrêmement constructive, et c'est d'autant plus pour ça, si tu veux, que quelque part, je trouve ça bien qu'on profite de l'émission pour réinsister dessus, parce que, enfin, vraiment, moi, je suis 100% d'accord avec toi, parce que je trouve que parfois, justement, dans le milieu des praticiens, il y a tendance à écouter la recherche comme voie d'évangile, et je trouve ça très bien qu'on la remette un peu à sa place, c'est-à-dire pas dire elle ne sert à rien, elle produit pas de connaissances, elle est biaisée, enfin, etc. Toutes les critiques qu'on peut entendre parfois, mais savoir lui dire quand même qu'elle a ses limites et qu'elle produit des choses qui sont à prendre, mais avec toujours un esprit critique, et que le praticien est on ne peut plus légitime à exercer son esprit critique sur la recherche. Je trouve que ça, c'est vraiment important de.
Et dans cette.
Pour moi, pardon, juste pour finir là-dessus. C'est pour rebondir sur le dernier mot que tu as utilisé. Pour moi, c'est même la caractéristique essentielle d'une connaissance scientifique, c'est d'être au clair sur ses limites. C'est par rapport à d'autres connaissances humaines, où les limites, par exemple, d'une connaissance politique, une connaissance religieuse, une connaissance professionnelle, qui sont des domaines de connaissances où ça peut être compliqué que la personne elle-même soit claire sur les limites. Pour moi, c'est le premier critère de la connaissance scientifique, c'est que le chercheur qui produit la connaissance doit énoncer, en même temps qu'il énonce la connaissance, les limites de cette connaissance. Sinon, pour moi, ce n'est pas la recherche. Si moi-même, je ne suis pas capable d'énoncer les limites. Après, d'autres énonceront d'autres limites, mais moi, comme producteur de connaissance, mon premier boulot, c'est d'établir les limites de ma connaissance, de la connaissance que je viens de produire.
Ouais. Alors, j'irai pas dans ce débat, mais non, mais là où j'irai pas, c'est que là encore, je suis vraiment d'accord avec toi. Mais par contre, je pense qu'il y a quand même beaucoup. Enfin, je trouve qu'il y a, j'irai pas beaucoup, mais il y a un nombre significatif de recherches aujourd'hui qui signalent un certain nombre de leurs limites, notamment méthodologiques. Tu vois, ça fait vraiment partie des trucs là encore. Des très jeunes chercheurs, on nous dit voilà, il y a toujours des limites à une recherche. Mais en même temps, je trouve que sur la nature de notre objet, qui est voilà, l'humain d'une part, d'autre part, l'enseignement et l'apprentissage, etc. Moi, je trouve qu'il y a des limites qu'on oublie, enfin, qu'on ne cite tellement plus que j'ai l'impression que beaucoup de chercheurs l'oublient. Alors, on n'ira pas dans ce débat-là, tu vois, mais je trouve que, mine de rien, si je suis d'accord avec le critère que tu poses, le niveau d'exigence, entre guillemets, que je mettrais à ce critère, je trouve que parfois, fait un petit peu défaut.
Oui, bien sûr.
Fabien, on n'est pas bien là entre deux chercheurs ?
Ouais, moi j'aime bien. Alors là, j'écoute religieusement. Et je me disais, Régis, dans l'intervention d'André et puis dans la réplique que lui a donnée Jean-Philippe, ça me rappelle ce que disait Bruno Della Chiesa, tu sais, autour de la neuroéducation, ou tu vois, des neurosciences appliquées à l'éducation. Le parallèle qui est fait entre les mathématiques et l'ingénierie par André, en disant voilà, nous on constate des choses, on apporte les choses aux praticiens, et après les praticiens restent les praticiens, et ils se saisissent de cette distance critique et de ces éléments objectivés qu'on amène pour les intégrer à leur pratique, pour les mettre en corrélation avec des stratégies d'intervention qui sont déjà mises en place, et pour peut-être les accompagner dans une posture qui devient de plus en plus réflexive. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on tire du bouquin aussi, Régis.
Je regarde un petit peu le chrono parce que c'est mon travail aussi, et je me dis, là on parle des profs, on parle des chercheurs, est-ce qu'on n'irait pas tous ensemble en récré, profs et chercheurs et formateurs?
Allez,
on met les anoraks.
C'est la récré.
C'est la récré. La récré, la récré, la récré.
Alors la récré, La récré, je sens que ça va être un bon moment partagé avec ce que je vois un petit peu qu'André a mis dans les notes de l'émission. André, Tricot, quelle est ta récréation?
Alors, j'ai pensé à quatre récréations. Ma première, c'est que depuis que j'ai le droit de sortir de chez moi, mon activité favorite, c'est de me perdre dans les villes. Et avec Wikipédia, j'ai redécouvert le plaisir de me perdre dans Wikipédia. C'est un plaisir quotidien, c'est un plaisir qu'on a dans les bibliothèques, dans les encyclopédies, qu'on a avec Wikipédia. J'adore perdre mon temps sur YouTube. Je regarde des vidéos plus cons que ça, c'est pas possible. Et plus c'est con, plus j'aime. Et donc j'ai une grande période vidéo de russe alcoolique. Et puis maintenant cette période est finie, mais je pense qu'elle a eu un effet délétère sur mon.
De quelle nature, si je peux me permettre? On veut savoir.
Non, mais je pense que ma bienveillance envers l'espèce humaine a eu un petit moment de creux là, à une époque, et puis finalement elle est revenue. Et sinon, une autre chose que j'aime énormément, c'est mon métier et notamment. Le fait de diriger les thèses et en fait quand on fait ce métier l'enseignant c'est toujours pour que nos élèves deviennent meilleurs que nous et quand on dirige une thèse c'est ça qui est bien, c'est que ton élève il devient meilleur que toi sous tes yeux et à la fin de la thèse généralement il est plus intelligent que toi et ça c'est fabuleux. Et puis une autre chose que j'aime c'est la ville de Sydney où je vais de temps en temps travailler et en fait, il y a une plage à Sydney qui s'appelle Coogee et qui est à peu près à une demi-heure à pied de l'université. Et donc, j'aime énormément devoir le matin passer prendre un bain à la plage avant d'aller au boulot et puis remettre le short et les tongs avant d'aller travailler.
Oh, cette récréation, c'est incroyable, incroyable. Une vidéo d'alcoolique russe à la plage de Sydney en passant par Wikipédia. Plus éclectique qu'on n'a jamais fait, je crois.
Moi, je voudrais juste rebondir sur deux, trois choses. Il y a tout un paragraphe, en tout cas toute une partie qui est dédiée à Wikipédia dans le bouquin, André. Et je ne savais pas que c'était un... Enfin, je n'avais pas compris au travers de cette lecture que c'était un espace d'information que tu aimais fréquenter. Et je m'étais mis la question, est-ce que tu as déjà contribué pour Wikipédia? Parce qu'en ce moment, on a le gros autocollant sur Wikipédia, tu sais, qui nous dit qu'il faut absolument contribuer. Donc là, tu as apporté une réponse. Et tu parlais de tes étudiants, des doctorants donc, que tu accompagnais en tant que responsable de thèse. Tu dédies le bouquin à Claude Bastien. Alors, je suis désolé, c'est quelqu'un, moi, que je ne connais pas. Est-ce que tu pourrais nous en parler de Claude Bastien?
Ouais, c'était mon directeur de thèse et c'était quelqu'un qui était un piagétien, en fait, qui avait connu l'école de Genève à la grande époque et puis qui était un collaborateur de Barbel Lindelder, qui était une des principales collaboratrices de Piaget. Voilà, puis c'est quelqu'un qui, dans les années 70, a découvert la psychologie cognitive et petit à petit essayé de mettre ensemble la psychologie piagétienne avec la psychologie cognitive américaine. Et puis, c'est quelqu'un qui m'a appris que c'est bien de s'intéresser aux apprentissages humains, mais quand même, le lieu principal des apprentissages humains, c'est la classe. Et donc, c'est lui qui m'a attiré vers les apprentissages scolaires et plus généralement les apprentissages académiques. Et puis voilà, c'était un être humain absolument extraordinaire, charismatique. Et voilà, donc chaque fois que je le voyais, je l'appelais papa et je l'embrassais. Ce qui n'est pas une relation normale entre un directeur de thèse.
Non, moi, je peux dire que si j'avais fait ça avec le mien, le directeur de thèse, je m'en serais péri une.
Fabien, une récréation peut-être?
Ah bah, puisque tu me poses la question, Régis, eh bien moi je peux comme on est très bouquin en ce moment, hein, c'est l'automne donc c'est la rentrée littéraire. Il y a un bouquin que j'ai bien aimé, que j'ai vraiment comme ça acheté un peu par hasard parce que bizarrement je connaissais peu les éléments biographiques autour d'un pédagogue, puisqu'on parle pédagogie aujourd'hui forcément d'un pédagogue dont on entend largement parler, c'est Célestin Freinet. Et là on avait un Non, Régis, il est bon. Pardon, c'est que Régis m'a mis un message dans le micro. Et du coup, ce Célestin Freinet, moi, je voulais en savoir plus sur des éléments biographiques. Et c'est ce que met en ouvrage le bouquin de ce monsieur dont j'ai plus les références en tête. Je sais que le bouquin, enfin, j'ai plus son nom. Le bouquin s'appelle Célestin Freinet, un pédagogue en guerre. C'est aux éditions Perrin. Et du coup, il y a un parallèle entre ces éléments biographiques et l'influence qu'elles ont eue sur sa pédagogie, sur sa proposition. Et j'ai trouvé ce bouquin vraiment, vraiment éclairant. Parce qu'on allait au plus profond de l'histoire de ce monsieur et de sa personnalité, une personnalité un peu bah, comme tout le monde, hein, un peu trouble, un peu ambigu. Et je me suis vraiment, vraiment, vraiment régalé avec ce bouquin. Je crois que c'est Emmanuel Saint-Furcien, mais j'ai vraiment peur de dire des bêtises sur le nom de l'auteur. En tout cas, je compléterai avec les notes de l'émission. J'étais un peu pris de court pour cette récré par monsieur Régis Forgione.
Ah, je t'ai bien eu. Bon! Sans transition ou presque, puisque comme vous allez l'entendre, il a réussi à en faire une, je vous propose qu'on écoute la capsule de Jean-Noël pour la récré de Papa à quoi tu joues.
Bonjour les garçons, je reviens les batteries chargées par notre rencontre en vrai sur Educatis qui avait pour moi comme un air de terrain de jeu. Justement, jouons un peu, mais restons la tête dans les étoiles. Pour être raccord avec l'émission, je vais vous inviter à devenir un chercheur. Un chercheur d'exoplanètes, un vrai. Et même qu'avec un peu de chance, selon les équipements de vos classes, vous pourrez aussi emmener vos élèves dans cette recherche. Je vous propose Eve Online. Alors Eve Online, c'est un jeu multijoueur en ligne, c'est pour ça qu'il y a le mot online hein, dans le titre, qui vous propose d'incarner un pilote dans son vaisseau spatial pour partir vivre des aventures dans l'espace. Mais ce n'est pas cela qui m'intéresse parce que, bah, pour être tout à fait franc, j'ai jamais vraiment accroché à cette production. Mais c'est une fonction bien précise de ce jeu qui a été implémentée il y a un peu plus d'un an de cela et mise à jour il y a plus de 6 mois. Il s'agit du Project Discovery, qui vous propose de partir à la découverte de vraies exoplanètes. Le jeu vous explique avec un petit tutoriel en anglais comment détecter la présence d'exoplanètes grâce à une analyse du spectre lumineux de la lumière des étoiles. En gros, sur un graphique, si vous voyez une chute brutale de l'intensité lumineuse, eh bien ça veut dire qu'un corps céleste passe devant l'étoile. Et si on analyse plus finement, on pourra en déduire une vitesse, une taille approximative, une durée de révolution. En gros, l'occasion d'une séance d'approfondissement, plutôt pour les élèves plus âgés, de la découverte des systèmes qui peuplent l'espace. Si l'analyse des spectres est correcte, c'est-à-dire que plusieurs joueurs corrèlent le même résultat, et ensuite ce résultat est validé par les chercheurs, une notification sera envoyée quelques temps plus tard avec des récompenses en jeu. Le téléchargement du jeu et la création de comptes sont gratuits et vous pourrez participer au Project Discovery directement en débutant. Il y a un bémol, le tout est en anglais, il faudra donc jouer le rôle de l'interprète, mais c'est un maigre prix à payer pour un ticket vers la découverte de l'espace. Le projet est donc associé à l'Université de Genève et le professeur, Michel Mayor. Des centaines de milliers de photos ont déjà été analysées et tout le monde a l'air d'y trouver son compte dans ce partenariat. À vous de voir maintenant jusqu'à quels confins de la galaxie vous allez pouvoir emmener vos élèves. Bon, et puis, il faut bien dire que si vous accrochez au jeu, je ne pourrai pas être celui qui vous jettera la première pierre, parce qu'il faut bien savoir s'amuser dans la vie et aussi dans l'espace. Allez, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de jouer parce que c'est une des meilleures façons d'apprendre. Ciao à tous.
Un grand merci pour cette capsule Jean-Noël. N'hésitez pas à le retrouver dans son podcast « Papa, à quoi tu joues ?». On enchaîne sur les chapeaux de roue avec la fameuse capsule de MCC alias Marie-Camille Couder, la rideuse de MOOC, qui va vous faire faire le plein de MOOC, notamment autour des sciences cognitives.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Ce mois-ci, dans cette rubrique consacrée au MOOC, on va parler sciences cognitives. Les sciences cognitives, ce sont les sciences qui s'intéressent à comment les humains pensent et surtout apprennent. S'intéresser à comment les élèves apprennent, ça peut être une bonne idée. Surtout qu'un des premiers concepts qu'on voit lorsqu'on pousse la porte des sciences cognitives, c'est l'illusion de compétence. L'illusion de compétence, c'est comme son nom l'indique, quand on pense savoir, mais qu'en fait, non, on ne sait pas. Et ça veut dire que ce n'est pas parce que vos élèves disent « Oh, merci, j'ai tout compris » que c'est vrai. Être content du cours, ce n'est pas un gage d'apprentissage. Mais alors, qu'est-ce qui est donc un gage d'apprentissage ? La réponse, vous la trouverez dans les MOOC de sciences cognitives. Le premier, et mon préféré, c'est « Learning how to learn » sur Coursera. Barbara Auclay et ses collègues de l'Université de San Diego décortiquent pour nous les processus de l'apprentissage. Et ils utilisent pour cela les concepts qu'ils prônent, avec donc à la clé de multiples illustrations variées et marquantes. Barbara a un faible pour les zombies et elle nous parle souvent du flipper qu'on a dans la tête. Le ton est enlevé, le propos clair avec des illustrations marquantes. Bref, on ne s'ennuie pas. Le MOOC est également extrêmement documenté sur le point de vue scientifique. Chaque capsule se termine par une dizaine de publications scientifiques, le plus souvent en psychologie expérimentale, qui étayent son propos. Il tourne depuis 2015 et c'est parmi les MOOC les plus suivis de Coursera. Donc autant vous dire que c'est un monument. Il y a une session par mois environ, donc vous pouvez vous inscrire quand bon vous semble. Barbara propose également une newsletter tous les vendredis avec de très bons conseils de lecture. Le seul problème, c'est que tout est en anglais. Il existe des sous-titres en français, les illustrations sont claires, donc si vous avez l'habitude de regarder des séries en VO, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. En revanche, si l'anglais est vraiment un obstacle insurmontable et que vous avez besoin d'échanges avec des pairs, en français donc, il existe un MOOC de sciences cognitives sur Fun qui s'appelle « Apprendre et enseigner avec les sciences cognitives » et dont la session 2 commence le 27 décembre 2017. Ici, ce sont des formateurs qui nous expliquent comment ils font. Ils sont expérimentés, notamment les formateurs de l'armée de terre, dont on peut imaginer la compétence étant donné le public large et varié auquel ils font face. Le propos est nettement moins étoffé scientifiquement, ils citent rarement leurs sources et emploient un petit peu trop l'indicatif à mon goût. Les points abordés sont globalement les mêmes que ceux de Barbara. On peut donc supposer que le contenu est valable scientifiquement. L'avantage, c'est que c'est une vraie session, avec le même début pour tout le monde, avec une vraie communauté d'apprenants. Indispensable donc si vous avez un projet à monter dans votre classe. Je vous propose maintenant un petit tour d'horizon des MOOC ouvrant bientôt et pouvant présenter un intérêt pour les enseignants. Le premier, proposé par l'Université fédérale de Toulouse-Midi-Pyrénées, s'appelle tout simplement les réseaux locaux. Il débute le 8 janvier et nous promet d'apprendre à maîtriser la technologie des réseaux locaux. Notamment donc le Wi-Fi qu'on a dans la salle de classe et qu'on a l'impression qu'il ne marche jamais comme on voudrait. Le MOOC nous propose d'avoir une base solide sur les technologies des réseaux locaux, proposant non seulement les principes et le vocabulaire, mais aussi une prise en main des configurations basiques. Et ça, je me dis, en tant que professeur utilisant les technologies numériques, ça peut être drôlement utile. Un autre MOOC, qui débute le 16 janvier sur Fun, s'appelle « Étudiants dyslexiques dans mon amphi, comment comprendre et aider ». Il est proposé par l'ENS Lyon et dure 4 semaines. Si jamais vous n'enseignez pas dans le supérieur, il est à noter que les semaines 2 et 3 portent sur la dyslexie en tant que telle et n'ont donc aucun rapport avec l'enseignement supérieur. Elle s'adresse donc à tous les enseignants qui veulent en savoir plus sur la dyslexie. Voici ensuite deux MOOC sans date d'ouverture. Vous pouvez vous inscrire quand vous voulez et progresser à votre rythme. Le premier s'appelle « Se former pour l'ICN, informatique et création numérique ». Il est proposé par l'INRIA. Il s'adresse donc, comme son nom l'indique, aux enseignants souhaitant se former pour assurer l'enseignement de l'option ICN. Le deuxième, de l'atome à l'humain, à la racine des mots scientifiques, s'adresse aux enseignants souhaitant parfaire leur connaissance de l'étymologie. Débutant le 15 janvier, le MOOC HG4 s'adresse aux enseignants d'histoire-géographie. Il s'agit de 3 semaines organisées par le groupe TIS de l'Académie de Besançon. Il débute le 15 janvier. Il n'est pas sur une plateforme, il faut s'inscrire directement via le formulaire que vous trouverez dans la description de l'émission. Ensuite, quelques MOOC sur Fun que nous pouvons conseiller à nos élèves si nous enseignons au lycée. Dans la même lignée que le MOOC dont je vous ai parlé la semaine dernière sur les IUT. Tout d'abord, Introduction au STAPS, proposé par l'Université de Perpignan. Ensuite, 2 MOOC plus accès sciences humaines. Le projet FAC, les recettes pour réussir en sciences humaines de l'ENS Lyon avec l'Université Lyon 3, début le 8 janvier. Et enfin, commençant également le 8 janvier, Introduction à la psychologie à l'université par l'Université Toulouse-Midi-Pyrénées. Ce MOOC peut également être suivi par les enseignants, suivant en savoir plus ou envisageant une reconversion. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tour d'horizon des MOOC.
On vous met bien sûr toutes les références citées par Marie-Camille dans les notes de l'émission. Et on vous met également le lien vers son blog. N'hésitez pas à aller le consulter parce qu'elle publie des choses intéressantes et de plus en plus fréquemment. Allez, on retourne en classe pour la deuxième partie de l'émission.
Le dossier de Nipédu. Le dossier.
Et la deuxième partie de l'émission, qu'on a intitulée « Vous avez dit innovation », j'ai même envie de dire « Est-ce que j'ai une gueule d'innovation ?» Parce que je reviens un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, André, c'est… Alors, pour présenter aux auditeurs, faire manipuler permet de mieux faire apprendre. C'est les questions qu'on se pose dans le livre. Est-ce que les élèves apprennent mieux quand ils découvrent par eux-mêmes? Est-ce qu'ils apprennent mieux en groupe? Est-ce que s'appuyer sur l'intérêt des élèves améliore-t-il leur motivation et leurs apprentissages? Est-ce que j'ai été surpris pour certains de les voir sous la bannière innovation, du coup? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus?
Ouais. Alors ça, c'est une vraie question difficile. C'est-à-dire que quand on choisit cette approche, mythe et réalité, l'idée, c'est d'essayer d'identifier un certain nombre de poncifs, c'est-à-dire des choses qu'on va entendre du type « tout le monde sait bien que ». Il est évident que, comme tu parlais tout à l'heure dans la formation initiale, on fait de la pédagogie par projet, ça ne se discute même pas. Mmh. Et donc, voilà, là, l'idée, c'était de dire… moi, quand j'entends des gens qui disent « Ah ben tiens, on a créé une innovation pédagogique, on a mis les élèves en groupe autour d'une table, ou alors on les a mis en groupe avec 4 ordinateurs dans 4 salles différentes », moi, ça me suffit pour dire « Ah tiens, il y a des gens qui pensent que faire travailler les élèves en groupe, c'est innovant. » Voilà. Et à partir de là… Je me saisis de ça comme un poncif et puis j'attaque le poncif avec cette approche de dire ben d'où vient cette idée et sur le travail en groupe c'est très intéressant en fait c'est que par rapport à beaucoup d'autres idées pédagogiques c'est une vraie idée nouvelle hein, c'est une idée qui date du XXe siècle alors que beaucoup d'autres idées sont très très antérieures et puis après de voir un peu les ambiguïtés qui sont attachées à cette idée, par exemple la confusion entre travailler en groupe et apprendre en interaction. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Mais après, je pour répondre explicitement à ta question, je saurais pas défendre une méthodologie très rigoureuse pour le choix des 9 poncifs. Okay. Voilà, ça c'est juste mon expérience de formateur, d'enseignant et puis de discussion avec des collègues. Je dis voilà, il y a des choses qu'on trouve assez souvent des poncifs.
Qui s'auto-définissent comme innovation pour le coup. Ouais.
Ouais.
Mais d'ailleurs, on s'est questionné, nous, en lisant le bouquin, parce qu'on échange sur un espace de travail collaboratif. Et moi, j'ai dit au garçon, j'ai dit, mais du coup, j'ai du mal à comprendre le terme d'innovation. En fait, tu vois, derrière le bouquin, André, je lis mythes et réalités, je sais pas, des stratégies d'intervention pédagogique, par exemple. Tu vois, le mot innovation, j'ai eu du mal. Alors, même si tu commences dessus par expliquer ce que pourrait être l'innovation pédagogique ou la façon dont toi tu angles le bouquin autour de cette notion, en fait, ou alors c'est parce qu'encore on a été tellement pétri de ça et l'UFM que pour nous ça nous semble des évidences, mais moi la plupart de ces points que tu abordes, je vois pas en quoi ce sont des innovations pédagogiques. Est-ce que tu peux m'expliquer?
Non, c'est parce que c'est ça. Enfin, je vais le dire autrement. Si il y a un lieu qu'on connaît tous ici. C'est Ludovia. Voilà. C'est le genre d'endroit où tu rencontres des collègues et quand tu vas à Ludovia, tu entends des choses extrêmement innovantes, tu vois des choses extrêmement innovantes et puis parfois, au nom de l'innovation, tu vois des choses qui sont absolument pas innovantes. Alors, je parle de Ludovia parce que c'est un endroit où on s'est rencontrés et c'est un endroit vraiment chouette et puis il y a plein d'autres endroits. Autrement dit, j'ai pas essayé de m'attaquer à des innovations pédagogiques. J'ai essayé de m'attaquer à des choses qui peuvent être présentées comme des innovations pédagogiques. Et ce que j'ai voulu remettre en cause, c'est le fait que justement elles soient des innovations et qu'elles se prétendent des innovations alors qu'elles ne le sont pas. Et si je reprends le travail en groupe, si je prends la pédagogie par projet, ou si je prends, les apprentissages par découverte. On nous dit que faire découvrir les élèves, c'est innovant. Je suis désolé, mais c'est une idée qui a au moins 300 ans. Voilà, c'est...
Et là encore, le chercheur que je suis a envie d'intervenir et a envie de pointer un... Comment dire ? Parce que justement, moi, j'étais séduit avant même de lire le livre par l'idée, enfin le concept même du livre qu'on perçoit tout de suite quand on a le titre et qu'on feuillette. Mais là aussi, petite frustration. Parfois, j'aurais aimé en allant, vu que tu questionnes justement des choses qu'on considère comme acquises alors qu'elles ne le sont pas du tout. J'aurais aimé aussi que parfois on aille jusqu'à questionner la formalisation, l'expression. Parce que par exemple, si tu veux, moi, le genre l'expression du type « les élèves découvrent par eux-mêmes », quelque part, j'aurais un réflexe interne qui aurait envie de dire « mais de toute façon, c'est comme si on disait « les élèves apprennent par... ils ne peuvent que apprendre ou découvrir par eux-mêmes ». Enfin, si tu veux, il y a toujours quelque chose, l'apprentissage, il est toujours interne, quel que soit l'accompagnement. Et tu vois, parfois, même dans la formalisation, enfin, la formulation de ces poncifs, il y a des choses, des fois, qui mériteraient... Attends, j'en avais noté d'autres... qui mériterait d'être mis en question. L'usage du mot authentique, tu vois, par exemple. Quand on questionne l'authenticité avec une question de schéma, hein, tu vois, quel type de schéma on utilise, ou l'authenticité de est-ce que j'apprends quelque chose dans la salle de classe ou dans l'entreprise, tu vois, pour moi, quelque part, on ne parle pas de la même chose, tu vois. On pourrait même jusqu'à aller à questionner parfois le type de mot. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que tu vas pas là parce que... C'est plus ta cible, c'est-à-dire en allant là, tu te décalerais vers un public, enfin tu plairais peut-être plus à un public de chercheurs qu'à un public de professionnels qui n'a peut-être pas envie de se coltiner des discussions qui seraient un peu sur des aspects linguistiques ou terminologiques.
Ouais, je pense que c'est vachement important ce que tu dis. Ce que j'essaie de faire, c'est de prendre des poncifs et justement de montrer comment derrière des poncifs, y compris derrière une chose qui est intrinsèquement hyper pertinente, qui est le travail en groupe, comment derrière ce poncif se cachaient des idées qui étaient souvent très générales et qui recouvrent des réalités vraiment différentes. Donc, ce que tu pointes, c'est au cœur du bouquin. Et qui est de dire, mais si on utilise l'argument de l'authentique pour dire des choses qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, tu vois l'exemple du schéma photographie, plus voilà, c'est bien qu'il y a un problème avec cette idée. Donc, c'est vraiment le cœur de la démarche, c'est de dire, alors j'aurais pu, enfin, si j'avais eu le droit de faire un titre qui faisait 45 mots au lieu de au lieu de deux. Tu vois, je veux dire, voilà, des idées pédagogiques générales qui se prétendent innovantes, mais qui en réalité recouvrent des idées extrêmement, souvent vagues et hétérogènes entre elles.
Ok.
C'est moins vendeur, on est d'accord. Ah oui, je vais parler de l'exemple très concret parce que je vais jouer vraiment mon rôle de prof dans Nipédu. À prendre un exemple, l'exemple des cartes mentales. Et les cartes mentales, je vais mettre un mot très général. Souvent, on nous bassine sur l'idée que la carte mentale, elle doit être fabriquée par l'élève pour que les concepts dont lesquels qui prend en main via cette carte mentale, il faut que ce soit lui-même qui la produise, il faut qu'elle soit individuelle pour qu'elle soit bien prise en main, que les concepts soient bien compris. Et en lisant le livre, on se rend compte que non, pas forcément, voire pas du tout. Je vais te laisser la parole juste en disant que moi, ça m'a complètement décomplexé parce que parfois, quand je construis une carte mentale avec mes élèves, j'ai bien dit, ensemble en mode collectif au TBI, ou alors que parfois même je leur ramène une carte mentale déjà pré-agencée qu'ils n'ont plus qu'à remplir, je me disais, oh, tu triches un peu, là t'es trop rapide, tu prends des raccourcis juste pour des questions de temps. Eh pas du tout, André Tricot, c'est ça, je me trompe pas, je fais bien de décomplexer un peu.
Oui, si le bouquin pouvait servir qu'à ça, juste à décomplexer, et si les personnes pouvaient se sentir libres dans leur travail, le livre aurait atteint son objectif. En fait, la carte mentale, c'est un problème moi, que j'ai trouvé hyper intéressant, et je pense même de mémoire que ça devait être au cœur du sujet de la première thèse que j'ai dirigée, qui était celle de Franck Amadieu, donc il y a longtemps, mais c'était le... Pour revenir sur les histoires de filiation dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, l'idée, c'est simplement de dire que la carte mentale, comme beaucoup d'autres activités, c'est des activités de production qui jouent sur un effet de questionnement. Hein. C'est-à-dire, en gros, l'important, c'est de mettre les élèves dans la situation où ils doivent réaliser quelque chose. Se réaliser quelque chose étant essentiellement un alibi pour les faire se questionner sur le contenu et sur les relations internes au contenu qu'ils sont en train d'étudier. Et l'idée, c'était le résultat de Stollmeyer que je cite, et de dire « ouais, c'est une activité » qui est extrêmement intéressante comme d'autres, parce qu'elles engagent les élèves dans ce questionnement et cet effort de mise en lien de la connaissance, à condition que la connaissance soit à leur portée. C'est-à-dire que cette dynamique d'interrogation du contenu et d'élucidation des liens entre les contenus, ce soit quelque chose à leur portée. Et quand le contenu n'est pas à leur portée, ben, rajouter une tâche de fabrication de cartes, ça ne met pas le contenu à leur portée. Et l'exemple de Stollmeyer, c'est de dire, ben, quand le contenu n'est pas à leur portée, le fait de donner une carte toute faite peut être une béquille pour mieux appréhender le contenu. Voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce papier qui, en fait, dit quelque chose de tout bête. C'est juste de dire qu'il y a des activités qui ont beau être intéressantes, elles ne vont pas résoudre le problème d'un élève qui n'arrive pas à appréhender le contenu, sans doute parce que, par exemple, on n'a pas bien calibré le contenu par rapport aux connaissances préalables des élèves. Et donc, c'est un peu ça que je trouve intéressant de souligner, c'est comment une même activité peut être... au service de l'apprentissage et améliorer l'apprentissage dans telles conditions et en même temps devenir une surcharge, devenir interférente dans d'autres conditions avec d'autres élèves pour un autre contenu à traiter.
Ça, c'est des écueils qu'on retrouve dans ces mythes que tu passes au crible, hein, André. Il y a l'interférence. Il y a aussi quelque chose dont, il me semble, tu es spécialiste, c'est le coût cognitif. Et on se rend compte que dans de nombreuses de ces stratégies d'intervention, on met cette fameuse surcouche de coût cognitif qui peut être vraiment un écran entre l'apprentissage et l'élève. Alors, au nom de quoi? Je sais pas, d'une... Parfois, à te lire, on parlait tout à l'heure de décomplexer, et moi aussi, hein, j'ai eu mon petit passage de décomplexer. Alors moi, c'était plutôt sur le mythe de l'apprentissage par la découverte, où je me revois sortant d'IEFM, donc au début des années, ou à la fin des années 90, où on faisait des séances incroyablement scénarisées pour arriver à un résultat qu'on n'atteignait pas avec les élèves, en tout cas qu'on n'avait pas l'impression d'atteindre, et on sort de la séance épuisé et les mômes complètement paumés, et se dire mais putain, mais pourquoi je leur ai pas dit, tu vois, si je leur avais dit le truc dès le début, on serait passé à autre chose. Et c'est vrai que moi, alors oui, en te lisant avec tout ce que tu peux convoquer d'analyse, de méta-analyse et de résultats de la recherche, on se dit ouais, mais qu'est-ce qu'on a été bolos quand même, quoi, parce que franchement, il suffisait de dire le truc et puis reporter toute son énergie pédagogique sur des points où, oui, à un moment, la scénarisation, elle allait être vraiment utile à l'apprentissage, ou la médiation qu'on allait apporter, notamment en termes de support, comme tu le disais tout à l'heure, Régis, avec la carte mentale, elle allait être une béquille pour accessibiliser le contenu. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu souvent cette impression de tourner à vide en scénarisant pour scénariser, quoi. Parce qu'il y avait aussi une forme d'injonction là-dessus. On reparlait de la pédagogie de projet tout à l'heure. Bah, l'apprentissage par la recherche, c'est un peu la même chose, quoi.
C'est un très bon résumé du propos que j'essayais de tenir. Bon, là, c'est vrai que c'était très, très influencé par les travaux des collègues australiens qui ont été les premiers à mettre ça en évidence, qui étaient au tout départ, dans les années 80, les premiers papiers qu'ils ont sortis, c'était sur l'activité de résolution de problèmes en mathématiques, qui est de dire, ben, l'activité de résolution de problèmes est le cœur des apprentissages mathématiques, mais si le problème n'est pas à la portée de l'élève, alors que j'ai conçu ce problème comme moyen pour apprendre, il devient un obstacle à l'apprentissage. C'est ça, ou une autre façon de le dire, c'est que dans nos efforts pour mobiliser les élèves, on peut concevoir des situations plus riches, plus intéressantes, plus denses, mais si cet effort qu'on fait, c'est au détriment des élèves, ça ne fait que surcharger la situation, alors ça ne fonctionne pas. Et donc, en gros, ce serait de dire on a une espèce de balance entre, d'un côté, l'engagement dans la situation, la richesse de la situation, et de l'autre côté, le fait que la situation soit à la portée de l'élève. Et le seul apport par rapport aux travaux des anciens dans ce domaine-là, c'est de dire l'accès, il est à la fois l'accès à la tâche et l'accès à la connaissance. L'idée, c'est de dire on a deux paramètres. C'est un, que la tâche soit à la portée de l'élève, et deux, que la connaissance soit à la portée de l'élève. Et si je ne peux jamais sacrifier la connaissance. Je ne peux jamais baisser la connaissance. Et donc, ma variable d'ajustement, c'est l'exigence de la tâche, ce n'est pas l'exigence de la connaissance. C'est ça un peu la contribution des Australiens, enfin de John Sweller et compagnie, à ce débat-là.
Alors, comme tu le sais, André, le triptyque de Nipédu, ou comme tu le sais peut-être plus, c'est école, éducation et... Il ne sait pas. C'est numérique. Et donc forcément,
tu veux pas laisser André dire numérique et tu le montes.
Je la refais au triptyque. Comme tu le sais, André, le triptyque de Nipédu, c'est école, éducation et
numérique.
Il est trop fort. Réalisé sans montage, sans trucage.
Et sans trucage.
Alors on va faire un petit focus autour du numérique avec cette citation qui a vraiment explosé à nos yeux à tous les trois. Je vais la lire comme telle, page 125. Tu dis, il y a une quinzaine d'années, la stratégie du cheval de Troie a commencé à avoir un certain succès. En entrant à l'école, les outils numériques allaient se faire passer pour de simples outils, mais en réalité, ils allaient contraindre les enseignants à faire évoluer leurs pratiques. J'ai trouvé cette idée parfaitement stupide et je l'ai combattue comme j'ai pu. Ça pourrait s'arrêter là, mais non. J'avoue aujourd'hui que j'avais tort. dis-nous tout autour de cette citation qui nous a vraiment marqué.
Et c'est totalement vrai, c'est-à-dire que vraiment j'ai combattu, je me rappelle les conférences que je faisais il y a 15 ans, 20 ans, chaque fois c'était autour de là, de dire mais il faut arrêter avec votre histoire du numérique qui sert à rien, on le sait bien, mais ça va forcer les enseignants à modifier leur pratique. J'ai trouvé ça complètement stupide, malhonnête. Et c'est vrai que voilà, il y a plusieurs choses qui sont en train de changer. Il y en a un qui concerne essentiellement le numérique comme simple accès à l'information et le fait que les élèves en classe et en dehors de la classe et aujourd'hui accès à de l'information non vérifiée, des sources qui peuvent être mal intentionnées, qui peuvent subir ces biais de confirmation, qui est d'aller voir plutôt les informations qui corroborent notre point de vue plutôt que les informations qui pourraient mettre en doute notre point de vue, etc. etc. Ça, je trouve qu'il y a là-dessus un vrai défi pour l'école et qui est que le numérique est en train de changer la donne de l'information. Ça c'est une chose. Et puis il y a une autre chose qui me semble super intéressante qui se passe en ce moment, c'est la programmation comme tâche. Je parle pas de la programmation comme objectif d'apprentissage, je comprends absolument pas le propos. Mais l'idée de dire les activités de programmation pourraient être considérées comme des tâches, c'est-à-dire des moyens, et simplement des moyens, de réaliser des apprentissages. Et ce que je trouve vraiment fascinant, c'est que j'ai l'impression que la plupart des activités qu'on réalise en classe aujourd'hui, la plupart des tâches qu'on réalise en classe aujourd'hui, étaient déjà présentes il y a un siècle. Résoudre des problèmes, faire des exercices, préparer des exposés, etc. etc. C'est des tâches... Moi, je n'ai pas trouvé une seule tâche nouvelle enfin, véritablement innovante au cours du XXe siècle. Par contre, la programmation, j'en sais rien pour l'instant. Il faut qu'on en reparle dans 5 ou 10 ans, mais pour moi, est susceptible d'être, encore une fois, comme tâche, hein, je ne parle pas comme but, d'être une véritable nouveauté. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse strictement assimiler la programmation à une tâche de résolution de problèmes. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse strictement l'assimiler à une tâche de production. De production écrite, par exemple. Et donc, je crois qu'il y a, il y a vraiment des choses, en gros, du côté de l'information comme enjeu et du côté de la programmation comme tâche, qui me semble profondément, ou en tout cas potentiellement, très nouveau.
Bah, merci pour cette réponse extrêmement précise et développée. Alors, on va doucement se diriger vers la fin de l'émission. Avant ça, je crois qu'il y a mon collègue Fabien qui aura une dernière question, et moi j'en ai une encore avant ça. Alors à la fois à la lecture de livres et en t'écoutant, il y a un moment dans le bouquin, mais en fait c'est à la toute fin. C'est dans la conclusion, tu dis, alors j'ai pas la citation, hein, mais en gros, et tu me dis si en te paraphrasant je fais une erreur, mais tu dis que souvent, ce que tu as appelé dans le livre innovation pédagogique, donc c'est 10 mythes, souvent ramènent les pratiques d'enseignement qui sont des pratiques extrêmement complexes, avec plein de dimensions, justement à une seule dimension. Et tu dis que, au bout du compte, bah, c'est bien là son problème, c'est que quand on s'intéresse trop à une seule, bah, en fait, finalement, on ne change pas les autres, et peut-être qu'il faut changer les autres pour qu'il y ait un vrai... Et alors, du coup, en t'écoutant, je me dis qu'en fait, tu penses la même chose de la recherche, en fait, mais tu ne le dis pas vraiment. C'est-à-dire que la recherche aussi, elle s'intéresse à chaque fois qu'à un seul pan, à une seule dimension de la pratique enseignante, et qu'au bout du compte, tu vois, quand on tombait d'accord tout à l'heure sur le fait de dire « Ah ouais, bon, bah, la recherche, il faut la prendre aussi avec ça, un certain recul », en fait, elle fait la même chose que l'innovation. Elle parle de quelque chose, et puis ton livre le montre très bien, enfin, à chaque fois, c'est des expériences qui parlent de toutes petites choses, et on aurait envie de croire que c'est absolument déterminant, mais en fait, ce qui fait vraiment l'importance de la science, c'est quand on va intégrer ça à une pratique qui embrasse toutes les dimensions, et quand, justement, le praticien fait son travail de... Est-ce que je te paraphrase trop, ou est-ce que c'est bien ça ton message caché, un petit peu?
Non, c'est exactement ça, et une façon très, très simple, mais vraiment, je suis sincère, c'est de dire si... tu vois, avec une définition très naïve de l'intelligence, ce que j'essaie de dire, c'est que les professionnels doivent être plus intelligents que les chercheurs. C'est-à-dire qu'un chercheur, dans son activité de recherche, il peut se permettre d'être borné. Et plus il est borné, souvent plus il est bon chercheur. C'est-à-dire qu'il sait que sa question, elle touche qu'un petit bout, mais là-dedans... il a un énoncé clair des limites de son travail, alors qu'un professionnel, qu'il soit enseignant, qu'il soit ingénieur, qu'il soit médecin, etc., lui, non, il ne peut pas. Il faut qu'il prenne toute la réalité. Et pour ça, il a besoin de connaissances sur énormément de niveaux. À l'époque, quand j'ai commencé mon boulot de formateur, je me rappelle, j'avais un schéma en disant... un enseignant, pour comprendre son élève, ben, la réalité de son élève, c'est une réalité génétique, chromosomique, biologique, psychologique, sociologique, culturelle, etc. La réalité d'un élève, c'est du microscope jusqu'au plus grand des macroscopes. Mais la réalité du chercheur, c'est chaque fois une petite tranche de cette réalité. C'est ça, pour moi, le lien que je vois entre les deux. Mais à ça, tu vois, il faudrait que je rajoute, ça, pour moi, un professionnel, il a besoin d'avoir les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes et les bras grands ouverts pour appréhender toute cette réalité, mais au moment de prendre une décision, de dire « je fais A plutôt que B », il faut décider. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un professionnel, c'est quelqu'un qui est capable de prendre une décision alors qu'il n'est pas certain que c'est la bonne décision. Et il peut se tromper, et il peut revenir en arrière, et il peut réguler. Alors que finalement, un chercheur, on peut lui dire, tu n'es pas sûr de ce que tu affirmes, oh, mais c'est pas grave, tu as besoin de 10 ans de recherche en plus, c'est pas grave, prends-les tes 10 ans de recherche.
Bon les gars, j'ai deux bonnes nouvelles. J'ai le mot de l'émission, à destination de nos auditeurs, c'est décomplexion, ça c'est un. Et j'ai une deuxième bonne nouvelle, c'est que André Tricot sera un chercheur qui ne brûlera pas la rubrique prochaine qui paraîtra dans les cahiers pédagogiques. Je pense qu'il sera relativement d'accord avec nous. Voilà, donc c'était deux bonnes nouvelles. Fabien Aubard, à toi.
Pour la dernière question du coup, Régis, de cette deuxième partie du dossier, et si ça va à André, à la lecture, alors de façon très prime-sautière, je dois le dire, et à la lecture de ce bouquin, ou à la lecture ne serait-ce que du titre du bouquin, on pourrait se dire quand même, sale temps pour la pédagogie, non ?
Ouais, ben non, quoi. Non. Non, je pense que c'est le bouquin est un plaidoyer pour la pédagogie. C'est vraiment tout le contraire. L'idée, c'est de... Mais une autre façon de le dire, c'est finalement, dans la recherche en éducation, dans la recherche en psychologie, en France, et je parle bien de la France, hein, je ne parle pas de la francophonie, en France... Les questions de pédagogie se sont éloignées de la recherche en éducation et de la recherche en psychologie. Alors qu'il y a une recherche en pédagogie extraordinairement intéressante en Belgique, aux Pays-Bas, il y a des travaux passionnants en Allemagne en ce moment, il y a des travaux géniaux aux États-Unis, je ne parle pas du Canada qui est extraordinairement... Et nous, en France, la pédagogie est devenue une question qui n'intéresse pas tellement les chercheurs. Il y a de très bons travaux, très intéressants en didactique des disciplines, mais pas tellement en pédagogie. Un jour, j'ai même rencontré un collègue qui m'a dit, froidement comme ça, il m'a dit « Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fait de la recherche en pédagogie en France. » Et voilà, et en gros, le propos du bouquin est d'aller contre ça et de dire « Mais non, mais en fait... » La recherche en pédagogie, la recherche pour la pédagogie n'a jamais été aussi riche. Il y a des centaines de publications à lire chaque année. Et ces travaux-là, ils sont faits pour dialoguer avec des professionnels. Donc, c'est tout le contraire de ce que tu dis.
Et je devrais ajouter que vous en parliez tout à l'heure avec Jean-Philippe sur quel éclairage apportait le bouquin sur la recherche. En tant que praticien, moi, j'ai pris ce bouquin aussi comme une forme de propédeutique ou d'éducation à la recherche. Moi qui ne suis pas chercheur, je comprends mieux les enjeux et les méthodes de la recherche en pédagogie au travers d'un bouquin que tu as destiné à des professionnels, à des feuseux. Donc je trouve que c'est aussi tout le génie de ce bouquin, en tout cas ce qui le rend tellement attractif, c'est que au-delà de cette réflexion à laquelle tu nous invites, nous praticiens, sur notre façon de faire ou nos façons de faire la classe et de nous interroger face à nos élèves, face aux connaissances qu'on essaie d'aborder avec eux, bah, y a regarder aussi ce qu'est la recherche en pédagogie, regarder comment ça fonctionne, regarder quelles sont les limites. Vous l'avez bien dit tous les deux avec Jean-Philippe, et voilà, c'est une des richesses supplémentaires de ce bouquin.
Et ça s'appelle « L'innovation pédagogique, mythe et réalité ». Et nous, comme André Tricot, vous le savez, dans Nipédu, on ne parle que de ce qu'on aime, et franchement, on a adoré le bouquin, sans mentir. Donc... courez vous l'offrir ou vous le faire offrir parce qu'il y a vraiment des pistes, que vous soyez, il l'a dit, hein, que vous soyez prof, que vous soyez chercheur, cadre de l'éducation, mais je vais parler pour ma paroisse, vraiment pour le prof, il y a vraiment du concret pour tous les jours, pour se remettre un petit peu en question, faire le petit pas de côté qu'il faut, et avoir des billes surtout pour avoir le recul et la vision sur ce qu'on fait. Tu voulais dire quelque chose, Fabien ? Je t'ai vu lever le doigt.
Ouais, que c'est en fait, c'est un indispensable.
C'est ça.
C'est-à-dire que là, c'est vrai, on a fait une trilogie, on a beaucoup parlé bouquin, mais là, je m'adresse à tous les collègues, lisez ce bouquin, pour de vrai. Alors, décomplexion,
hein, je disais tout à l'heure, Jean-Philippe.
Non, non, mais c'est vrai, mais je sais que c'est pas bien, mais je m'en fous, tu vois. Je pense que c'est un bouquin, enfin, quand tu prends le format, la richesse, la densité du bouquin, et quand tu prends le prix du bouquin, tu te dis, bah non, pour toutes ces raisons-là, c'est vraiment un bouquin qu'il faut lire. C'est pas un investissement temps ou financier énorme, mais par contre, c'est un réel investissement intellectuel, et je pense que avec des retentissements sur la pratique qui peuvent être vraiment, vraiment intéressants. On est loin du blog affiche, on est loin de l'étude qui n'est pas à notre portée, du coup, parce qu'on n'a pas les outils parfois intellectuels ou méthodologiques pour comprendre cette recherche en pédagogie. C'est un objet, voilà, qui est entre les deux. Intellectuellement solide, et en même temps je pense qu'il peut amener une richesse incroyable dans notre quotidien de classe.
Du coup, on va se plonger dans la série en attendant le tome 2, et d'ici là je vous dis, on se retrouve dans le portrait chinois numérique. C'est parti.
Portrait chinois numérique.
Alors Fabien, c'est quoi le portrait chinois numérique?
Ah, t'adores hein, quand je fais le pitch du portrait chinois numérique. Alors, c'est parti. André, on va chacun te poser une question à laquelle tu devras répondre du tac au tac, sans explication, sauf si on sent bien tous les quatre là qu'il y a vraiment besoin d'apporter un éclairage parce qu'on comprend pas vraiment la réponse. Donc les questions vont s'enchaîner et je vous propose de commencer. Bah, on fait Jean-Philippe, Régis et moi.
Allez.
Allez. Alors, cher André, si tu étais une application ou un logiciel, tu serais...
Un traitement de texte qui corrigerait mes fautes d'orthographe, mais qui ne ferait pas de suggestions.
J'achète. André, si tu étais un objet numérique...
Ma bibliothèque iTunes.
Là, moi, je veux en savoir plus.
Il y a quoi dedans ? Il y a des risques alcooliques ?
Non, non, c'est juste, je suis un fanatique de musique et ma bibliothèque iTunes, c'est moi, en fait. Je ne fais plus la différence entre moi et ma bibliothèque iTunes.
Alors, je vais oser un truc, André, parce qu'il y a derrière toi une photo qui m'intrigue. Je crois qu'il y a une espèce de... une bassiste avec des cheveux comme ça, là.
J'ai oublié son nom. Elle s'appelle Esperanza, de son prénom et son nom de famille. Je l'oublie tout le temps. C'est une bassiste de jazz qui est extraordinaire. Donc, vous allez sur YouTube, vous cherchez... jazz, basse et female, ou Esperanza, son prénom, c'est une bassiste extraordinaire.
Ok, je vais filer pendant que le prochain pose sa question.
C'est à toi d'aller chercher ça pour mettre ça dans les notes de l'émission. Et je tiens à dire à nos auditeurs qu'on a trouvé l'utilisateur d'iTunes et de la bibliothèque iTunes, c'est André Tricot. J'arrive pas moi avec iTunes, c'est incroyable, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas la logique. Troisième question, donc un usage du numérique en éducation, André.
Le TBI comme espace de négociation.
Alors moi, je ne vais pas te demander de précision parce qu'on en sait un peu plus dans le bouquin. Il me semble.
Je vais juste préciser que c'est Esperanza Spalding.
Voilà, merci.
Et c'est donc à moi, un personnage de jeu vidéo de l'univers numérique ou une icône du web.
Ted Nelson ou Douglas Engelbart.
Voilà. Je ne les connais pas.
Ouais, il faut que tu nous en dises plus, là.
Il y en a un qui a inventé Ted Nelson a inventé l'hypertexte. Et Doug Engelbart a inventé l'informatique personnelle, le traitement de texte, la bibliothèque en ligne, la souris.
Ok, voilà, pas mal.
Le mec, la moitié des concepts que tu utilises tous les jours, c'est un seul mec qui les a inventés. Et il a été viré de l'université en Californie où il travaillait en 1976 parce que l'université ne le trouvait pas assez productif. Et 1976, c'est l'année où démarrent Windows et Apple. Qui sont les deux qui ont complètement piqué les idées de ce pauvre Doug Engelbart qui a tout inventé pour eux.
Chez Xerox, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, il était à Xerox.
Si tu étais un réseau social ?
La place de mon village, un jour de marché.
Hashtag, ça sent bon le cassoulet.
Non, on ne vend pas de cassoulet sur les mains.
C'est à Régis.
Non, je viens de le faire.
Ah, ok. Ah, ça va bien. Ok. Un site web, André.
Les tricots à Sydney, c'est le blog de ma famille quand on va en vacances à Sydney ou quand on va travailler à Sydney ou quand on voyage à Sydney. C'est un site qui est fréquenté par 5 personnes, les 5 membres de ma famille.
Je croyais que t'es un fabricant de pulls ou un truc comme ça.
Si tu étais une requête Google.
Pourquoi mon lave-vaisselle est-il en panne?
Pas mal.
Requête fréquente du coup. toujours j'ai les questions de réseaux sociaux moi. Un hashtag sur Twitter.
Autopromo.
Ah ouais, alors explique-nous.
c'est une copine qui m'a fait découvrir ça, qui est de dire quand tu mets un truc sur Twitter qui est vraiment trop ostensiblement de l'autopromo, mets ce hashtag pour te montrer toi-même.
Ah, ouais, j'aime bien. Bien
pas mal. On peut le mettre en réponse aussi à un message.
Taguer le côté critique. Jean-Phi ?
Alors, une technologie ou une innovation numérique ?
Le iPhone 9, je confesse, j'ai honte.
Alors pourquoi l'iPhone 9 et pourquoi t'as honte ?
Je suis un horrible consommateur de gadgets.
Okay. Alors,
moi, en lisant cette réponse, je me suis quand même posé une question. C'est que sous couvert des garçons, il n'y a pas d'iPhone 9.
Bah oui, je pensais que c'était une critique, moi.
Okay. Non, c'est de dire, voilà, j'assume mon côté ridicule de toujours regarder le truc qui n'est pas encore sorti. Et qui,
d'accord, ok. Voilà. Ok.
C'est totalement ridicule.
C'est ton côté geek, quoi.
Mais mais blaireau geek, tu vois, c'est pas le vrai geek. Tu vois, c'est pas le vrai geek qui déteste l'iPhone, tu vois.
C'est vrai. et donc dernière question, si tu étais un troll, quelle serait ta cible?
Ah non, jamais. Je déteste tout ça.
Allez trolls, okay. Allez vous rhabiller.
Voilà, c'est bon. Il n'y a rien par ici. On se dirige vers l'avant-dernière partie de l'émission. Inspiration, coup de cœur, coup de gueule. C'est parti.
Inspiration,
coup de cœur,
coup de cœur,
coup de gueule,
coup de gueule.
Alors André, as-tu une inspiration, un coup de cœur, un coup de gueule, les trois à la fois, ou tu es libre?
Non, moi, ouais, c'est ce que j'ai essayé de dire au début. Moi, j'ai un coup de cœur pour mon métier. Voilà, je me dis que je fais le plus beau métier du monde et j'ai du mal. Si je suis tout à fait sincère, j'ai du mal à imaginer qu'il y ait des êtres humains qui choisissent de faire un métier différent du mien.
Bon, je ne suis pas d'accord parce que je pense que c'est moi qui fais le plus beau métier du monde, je suis désolé. Donc ça ne va pas le faire là pour ton coup de cœur.
Mais après, on ne peut plus poursuivre les débats parce qu'on est chacun soit d'un côté, soit de l'autre. Donc. Mais qu'est-ce qui te rend amoureux de ce boulot alors?
Déjà la question quoi, de départ de la psychologie cognitive qui est d'essayer de comprendre comment les humains utilisent des connaissances ou génèrent des connaissances ou apprennent des connaissances. Je me dis, mais en fait, tout le monde devrait s'intéresser qu'à ça. C'est quand même une question drôlement intéressante. Et puis voilà, et puis le fait de se poser ces questions de psychologie cognitive en relation avec des enseignants qui doivent enseigner à des élèves qui doivent apprendre. Et ça, c'est vraiment... vraiment très chouette. Et puis, il y a d'autres aspects que j'ai pas abordés parce que c'est très loin de notre conversation aujourd'hui, mais en psychologie cognitive, je travaille aussi sur des questions de sécurité des transports, je travaille dans le domaine aéronautique, je travaille dans le domaine de l'ergonomie des documents et des systèmes d'information. Autrement dit, les questions d'éducation qu'on a abordées aujourd'hui, pour moi, c'est un domaine de mobilisation des connaissances en psychologie cognitive, mais voilà, j'ai la chance dans mon métier de m'intéresser à, de pouvoir travailler dans des domaines extrêmement différents, et ça, voilà, tu vois, quand tu passes un jour avec des profs, le lendemain avec des gens qui construisent des voitures et le jour d'après avec quelqu'un qui forme des pilotes d'avion, tu te dis que t'as pas vécu ta semaine pour rien, quoi, tu sais.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, les garçons? Une inspiration, un coup de gueule, un coup de cœur pour vous? Non? Ok, c'est parti donc pour le... Comme on enchaîne vite sur la fin, j'adore. Le mantra du mois.
Le mantra du mois.
Le mantra du mois.
Le mantra du mois.
Et le mantra du mois, et là encore, c'est la deuxième citation, on va dire, qui nous a sauté à la figure, au trio. Le mantra du mois, je vais laisser Fabien le citer, bah, il est issu de ton livre, André.
Ouais, alors on aurait dû faire comme avec Monsieur Vaillant, ne pas lui dire et lui faire attribuer la citation à quelqu'un.
Ouais.
Et c'est rigolo parce qu'avec Régis,
désolé,
on avait vu la même chose. Hein. Je pense qu'on a repéré cette même phrase. Tu dis dans le bouquin, où tu écris plus précisément, le plus grand mythe de l'histoire de la pédagogie est bien la pédagogie traditionnelle.
Oui, oui, ça c'est un truc, enfin, je ne sais pas quelle est votre expérience à vous, mais moi qui fréquente beaucoup les formateurs d'enseignants et qui assiste à beaucoup de formations, le nombre de fois où j'ai entendu cette expression, oui, on fait A parce que ce n'est pas de la pédagogie traditionnelle, et donc cette idée, cet appel à la pédagogie traditionnelle pour justifier, tu vois, comme contrepoint. Je me disais, mais alors, à chaque fois, j'essaie de comprendre à quoi ils font référence quand ils disent « ça n'est pas de la pédagogie traditionnelle ». Et voilà, je me suis rendu compte que c'était un concept qui servait juste de repoussoir, mais qui désignait aucune réalité. C'est super intéressant comme prise de conscience, de dire « mais en fait, c'est un concept totalement creux.
Ouais, une belle licorne. Et je vois que dans le conducteur de l'émission, les garçons, il y a une erreur. Hein. Le mantra du mois, c'est sans S à moi, en fait. C'est un jeu de mots. Et en fait, ce n'est pas le mantra du moi ou du nous, mais c'est plutôt le mantra du toi, André. Alors, toi, est-ce que tu as un mantra comme ça, une phrase qui t'accompagne au quotidien et que tu aimerais partager avec les poditeurs et avec nous?
Ouais, elle est courte, c'est never give up.
Ok. Rock'n'roll.
Eh ouais.
Bon, ben on va se faire. Je vous propose qu'on se retrouve à Ludovia avec la citation de André sur un t-shirt, le plus grand mythe de l'histoire de la pédagogie. Et puis à la pédagogie traditionnelle, on ferait un tabac, je pense. Bon, André, pour ceux qui veulent te retrouver sur les réseaux, est-ce que tu nous as parlé du blog familial, mais je pense pas qu'on va se retrouver par là. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux?
Donc il suffit d'aller sur Google, de taper André Tricot, puis voilà, j'ai un site web dans lequel j'essaie de mettre à disposition mes travaux scientifiques et par ailleurs j'essaie d'utiliser des trucs comme Twitter et Facebook, mais j'avoue que je comprends pas trop comment ça marche et à quoi ça sert. Et pour vous donner un exemple de truc ridicule, souvent je suis sollicité par des entreprises hein, ou des incubateurs. Enfin, bon, on me demande mon avis sur des choses. Et puis il y a quelques années, il y a quelqu'un qui dit oui, c'était un projet d'une entreprise qui voulait créer un truc qui permettait à des gens de se mettre en relation et puis d'échanger des informations, des nouvelles, des photographies ou des impressions. Et donc moi j'ai mis un avis négatif en disant mais c'est nul ce truc, je vois pas à quoi ça sert, ça marchera jamais. En fait, le mec il était en train d'inventer le concept de réseau social et je comprenais tellement rien que j'ai trouvé que c'était une idée stupide.
Mais c'est pas grave, Mark Zuckerberg a quand même bien réussi. Bon, franchement, c'est une émission qui fait du bien, parce qu'il y a eu vraiment du fond, et on a bien ri, ça se sent jusqu'à la dernière seconde de l'émission. Donc un grand merci, André, on redit encore une dernière fois tout le bien qu'on pense de ce bouquin qu'il faut filer acheter pour de vrai, pour toutes les raisons qu'on a égrenées tout au long de l'émission.
Merci, merci beaucoup à vous trois, super moment. Et donc,
les garçons,
je garde les t-shirts.
On va te le faire, André.
Tu vas le recevoir en cadeau. Les garçons aussi. À très bientôt pour la prochaine émission de Nipédie.
À très vite, les gars.
Ouais. Merci, André. Merci, les garçons.
Salut, merci.
Ciao.
Never give up. Et surtout, gardez la pêche.